Selma Lagerlöf, le roman d'une femme de pêcheur. À l'extrémité du hameau des pêcheurs, sur un tertre bas de sable blanc, il y avait une petite chaumière. Elle n'était pas assez bien bâtie pour s'aligner avec les autres petites maisons régulières et proprettes autour de la grande place verte où des filets bruns séchaient. Il semblait qu'elle eût poussé hors de l'alignement et qu'on l'eût écartée jusqu'à la colline de sable. La pauvre veuve, qui en avait été l'architecte et le maçon, en avait fait les murs, plus durs bas que ceux de tous les autres, et le toit de chaume pointu plus élevé qu'aucun toit du hameau. Le plancher s'enfonçait sous la terre. La fenêtre, encore qu'elle ne fût ni haute ni grande, alliait cependant du sol à la corniche du toit. Ni le four, ni l'enclos des oies n'avaient pu tenir dans l'unique chambre étroite. On les avait ajoutées en saillie au mur. Cette chaumière ne possédait absolument pas, comme les autres, un carré de jardin où le liseron s'enlaçait autour des groseilles, où les sureaux croissaient à demi étouffés par les bardanes. De toute la verdure, les seules bardanes avaient accompagné la chaumière jusqu'à la colline de sable. Elles étaient assez somptueuses en été, avec leur feuillage frais d'un vert foncé, et entre leurs pointes crochues, l'épanouissement de leurs fleurs rouges. Mais à l'automne, lorsque leurs pointes avaient durci et que leurs graines étaient mûres, elles se négligeaient, devenaient sèches, laides, et leurs feuilles déchirées se couvraient de deuil sous des toiles d'araignées poudreuses. La chaumière n'abritait jamais plus de deux propriétaires à la suite, car ses murs en torchis ne pouvaient supporter que pendant deux générations le poids de sa lourde toiture. Et elle était toujours habitée par de pauvres veuves. La veuve qui est demeurée en ce moment-là se plaisait à regarder les bardanes, surtout quand l'automne les avait desséchées et qu'elles s'accrochaient à toutes les pierres. Elle lui rappelait alors la femme qui l'avait précédée sous la chaumière et qui l'avait reconstruite, une femme sèche et fanée et capable elle aussi de s'accrocher et de se cramponner. La malheureuse avait usé toutes ses forces pour l'enfant qu'elle devait pousser dans le monde. En y songeant, la propriétaire actuelle avait envie et de pleurer et de rire. Si la vieille femme morte n'avait pas eu cette nature de bardane, les choses auraient bien autrement tourné. Mais qui sait si cela eût mieux valu? La veuve réfléchissait souvent et longuement au hasard qu'il avait jeté sur cette côte plate de la Scanie, près de ce détroit resserré au milieu de ce peuple placide et lent. Car elle était née dans un petit port norvégien au pied des fjells, escarpé devant la vaste mer. Et malgré la gêne et la pauvreté où la mort de son père les avait laissés, cette fille de commerçant était cependant habituée à voir autour d'elle du mouvement et de la vie. Il lui arrivait souvent fois de se raconter à elle-même sa propre histoire, comme on relit un livre difficile, pour essayer d'en déchiffrer l'idée. Son étrange destinée avait ainsi commencé. Un soir, qu'elle rentrait de chez la couturière où elle travaillait, deux matelots l'avaient attaquée, un troisième l'avait sauvée. Il avait couru un vrai danger de mort et il l'accompagna jusqu'à sa maison. Elle l'y avait introduit, le présenta à sa mère et à ses sœurs et raconta avec exaltation ce qu'il avait fait. Il lui semblait que sa vie eût gagné en valeur du moment qu'un autre avait risqué beaucoup pour la défendre. La famille avait fort bien reçu le jeune marin et l'avait engagé à revenir le plus souvent qu'il le pourrait. Il s'appelait Björg Nilsson. Il était matelot à bord de la goélette scanienne, l'Albertina. Tant que son bateau fut au port, il revint presque chaque jour chez ses nouveaux amis. Et bientôt, personne ne voulut croire qu'il ne fût qu'un simple matelot. Il brillait toujours dans un col rabattu, éclatant de blancheur, et il portait un costume de marin en beau drap. Franc, alerte, ses habitudes étaient celles d'un homme de leur classe. Sans qu'il leur eût jamais rien dit, ses hôtes eurent l'impression qu'il était le fils unique d'une riche veuve, que, par irrésistible amour du métier de marin et pour prouver à sa mère le sérieux de sa vocation, il s'était embarqué comme simple matelot, mais qu'une fois ses examens passés, elle lui achèterait un navire. Cette famille norvégienne, qui s'était retirée de ses anciennes relations, l'accueillit donc sans la moindre défiance. Le cœur léger, la langue bien pendue, il décrivait sa maison au toit pointu et haut, dans la salle, le grand foyer à l'ancienne mode et les petits carreaux des fenêtres. Il parlait aussi des rues silencieuses de sa ville natale et des longues rangées de maisons toutes les mêmes et de l'agréable contraste qui faisait sa maison à lui par ses saillies irrégulières. Et son auditoire apercevait derrière lui une vieille demeure bourgeoise aux pignons ornés d'images, une de ces vieilles maisons dont l'étage supérieur avance et qui donnent une si bonne impression de richesse et de respectable ancienneté. La jeune fille reconnut bien vite qu'il l'aimait, et sa mère et ses sœurs en furent très joyeuses. Le jeune et riche Suédois leur était envoyé par le ciel pour réparer leur pauvreté. Même si elle ne l'eût pas aimé comme elle faisait, il n'aurait jamais été question de le repousser. Un père, un grand frère eût certainement cherché à se renseigner sur cet étranger, mais pas plus qu'elle, sa mère n'y songea sérieusement. Plus tard, elle comprit comment elle l'avait presque poussé à mentir. Au commencement, et sans aucune mauvaise pensée, il avait laissé leur imagination lui prêter de grandes richesses. Puis quand il avait vu combien elles en étaient heureuses, la crainte de la perdre l'avait empêché de les détromper. Ils se fiancèrent à son départ et au retour de la goélette, ils se marièrent. Mais elle avait été un peu déçue qu'il revînt comme simple matelot, mais son contrat devait le lire encore. Il n'apportait rien non plus de la part de sa mère. Mais la vieille dame avait sans doute espéré pour son fils un autre mariage. Il fallait attendre qu'Astrid lui fût présentée et fît sa conquête. Malgré tous ses mensonges, elles auraient bien pu voir qu'il était pauvre si seulement elles avaient ouvert les yeux. Comme la jeune femme désirait faire le voyage à bord de la goélette, le patron lui offrit sa cabine et cette offre fut acceptée avec joie. On exempta Borge de presque tout son travail et il passa la plus grande partie de son temps à causer sur le pont avec Astrid. Il lui prodigua le bonheur de l'imagination, ce bonheur dont il avait vécu lui-même toute sa vie, puis ils songèrent à la petite chaumière à demi enfouie dans les sables. Plus haute se dressait la maison où il voulut le faire entrer. À sa voix, elle glissait doucement au milieu d'un port qui s'était orné de fleurs et pavoisé de drapeaux en l'honneur de la mariée de Børge Nilsson. Elle passait en voiture sous un arc de triomphe, pendant que les yeux des hommes la suivaient longuement et que les femmes pâlissaient de jalousie. Il l'introduisait enfin dans la vieille demeure vénérable, où de vieux serviteurs en cheveux blancs s'inclinaient devant elle et où la table du repas de fête ployait sous la vieille argenterie. Quand elle découvrit la vérité, sa première pensée fut que le capitaine avait été d'accord avec Børge pour l'abuser. Mais elle reconnut ensuite que rien n'était moins exact. On avait pris l'habitude, à bord de la goélette, de parler de Børge comme d'un homme considérable. C'était une plaisanterie favorite de s'entretenir très sérieusement de ses richesses et de sa grande famille. On avait cru qu'elle plaisantait, elle aussi. Donc, au moment où la goélette jeta l'ancre dans le port le plus rapproché du village de Burge, elle pouvait encore s'imaginer qu'elle était la femme d'un homme riche. Burge obtint un congé d'un jour et d'une nuit pour mener sa femme chez sa mère et pour l'installer dans sa nouvelle vie. Quand ils touchèrent au quai où les drapeaux devaient flotter et la foule acclamait le jeune ménage, il n'y régnait que le vide et la tranquillité coutumière. Burge remarqua que sa femme promenait autour d'elle un regard déçu. « Nous sommes venus trop tôt, » dit-il. « Le voyage a été si court par ce beau temps. On a pu envoyer une voiture à notre rencontre, et nous avons un bon bout de chemin, car la maison est en dehors de la ville. » « Mais qu'importe, Burge, » avait-elle répondu, « ça nous fera du bien de marcher après avoir été si longtemps immobile. » Et ils commencèrent leur route, cette route d'horreur, à laquelle même dans ses vieux jours elle ne pouvait songer sans gémir d'angoisse et sans crisper ses points de souffrance. Ils avançaient par les larges rues vides qu'elle reconnaissait d'après la description qu'il lui en avait faite. Il lui sembla qu'elle retrouvait de vieux amis dans l'église sombre et dans les maisons de torchis, toutes également hautes. Et où était donc le pignon pointu et l'escalier avec sa belle balustrade? Burge lui adressa un petit signe de la tête, comme s'il devinait sa pensée. « Oh, c'est encore loin !» dit-il. « Ah, que Navid était ici miséricordieux ! Que n'avait-il tué d'un coup son illusion ? S'il lui avait tout avoué, elle l'aimait tant alors que son âme n'en aurait conçu aucune rancune contre lui. Mais il voyait grandir son angoisse, elle peur d'être trompée, et il continuait de la tromper. Voilà ce dont elle avait trop souffert et qu'elle ne lui avait jamais entièrement pardonné. Elle a eu beau se dire qu'il avait d'abord voulu l'entraîner assez loin pour qu'elle ne pût le quitter. Cette persistance à mentir lui avait jeté dans l'âme une glace que nul amour ne fondit jamais. Ils traversèrent donc la ville et s'engagèrent dans la plaine. Elle y vit des fossés sombres et des remparts de terre hauts et verdissants, souvenirs d'autrefois lorsque la ville était fortifiée. Là où ces remparts et ces fossés se rejoignaient autour d'une forteresse, de grandes tours grises s'élevaient et quelques maisons d'apparence très ancienne. Elle y jeta un regard timide, mais Burge prit à droite et suivit un des remparts qui longeait la côte. « C'est un raccourci, » dit-il, quand elle s'étonna de marcher dans un étroit sentier. Il était devenu taciturne. Elle comprit plus tard qu'il jugeait pénible d'amener sa femme à la pauvre chaumière du hameau et qu'il ne trouvait plus aussi enviable d'avoir épousé une personne au-dessus de lui et qu'il avait peur de ce qu'elle ferait lorsqu'elle connaîtrait la vérité. Après qu'ils eurent marché quelque temps en silence le long des remparts, « Burge, dit-elle, où allons-nous ? » Il leva la main et montra le hameau où sa mère demeurait dans la chaumière, sur la colline de sable. Mais elle crut qu'il lui indiquait une des belles fermes qu'on apercevait à la lisière de la plaine, et la confiance lui revint. Ils descendirent ensuite par les prés salés déserts, et là, toute son angoisse la ressaisit. Cet endroit où chaque touffe d'herbe flatte les yeux, qui savent regarder, par sa richesse et sa variété, elle ne lui parut qu'un vilain marécage. Le vent qui ne cesse d'y jouer l'enveloppa de ses sifflements et lui chuchota des paroles de malheur et de trahison. Burge hâta le pas. Ils atteignirent enfin la limite des prés salés et entrèrent dans le hameau. Pendant le dernier bout de chemin, elle n'avait osé faire aucune question, mais la vue d'une nouvelle rangée de maisons lui rendit courage. Peut-être, peut-être n'avait-il pas menti. Ses espérances avaient été si durement secouées qu'elle aurait pénétré le cœur bien aise dans une de ces petites demeures proprettes où des fleurs et de blancs rideaux se distinguaient derrière les carreaux brillants. Mais elle regretta d'être obligée de passer. Tout à coup, à l'extrémité du hameau, elle aperçut une misérable masure. Et ce fut pour elle comme si elle l'avait déjà longtemps vue par les yeux de l'âme, avant de la voir en réalité. « Est-ce là ?» dit-elle en s'arrêtant au pied de la colline de sable. Il inclina la tête et continua de s'avancer vers la chaumière. « Attends !» lui cria-t-elle. « Il faut que nous nous expliquions !» Il se retourna de son côté. « Tu as menti !» dit-elle d'un ton menaçant. « Tu m'as trompé !» Tu as fait pire que lui fait mon pire ennemi, pourquoi ? Dieu voulait t'avoir pour femme, répondit-il d'une voix basse et indécise. Mais encore, si tu m'avais trompé raisonnablement, mais pourquoi me remplir la tête de ces idées de richesse ? À quoi bon tous ces domestiques et les arcs de triomphe ? Pensais-tu donc que je tenais tant à l'argent ? Ne sentais-tu pas que je t'aimais assez pour te suivre n'importe où ? Dire que tu croyais nécessaire de me tromper ainsi, dire que tu as eu le cœur de soutenir tes mensonges jusqu'à la dernière minute. « Ne veux-tu pas entrer causer avec mère ? » murmura-t-il dans sa détresse. « Non, non, je ne compte pas entrer ici. »« Alors, tu vas t'en retourner chez toi ? » ?»« Et comment le pourrais-je ? Comment pourrais-je leur faire un si grand chemin, à eux qui me croient heureux et riches ? » Mais je ne resterai pas chez toi. Qui sait travailler arrive toujours à gagner sa vie. Mais reste, reste, supplia-t-il. Je n'ai fait cela que pour t'avoir. Mais si tu m'avouais avouer la vérité un peu plus tôt, je serais resté. Oui, tu serais resté, si je m'étais dit pauvre et que j'eusse été riche. Elle haussa les épaules et le quittait. Quand la porte de la chaumière s'ouvrit et que la mère de Burge apparut. C'était une petite vieille femme ratatinée, avec peu de dents et beaucoup de rides, mais moins vieille d'esprit et d'années que d'aspect. Elle avait probablement entendu une partie de la discussion et en avait deviné l'autre partie, car elle savait ce dont il retournait. « Voilà donc, dit-elle, la belle fille de bonne famille que tu m'as amenée. Et tu as encore fait des menteries à ce que je vois. » Elle s'approcha doucement d'Astrid et lui caressa la joue. « Entre avec moi, ma pauvre enfant. Oh, je comprends ta fatigue et que tu es épuisée. C'est ma cabane à moi. Il n'y entrera pas. Viens, viens. Tu es maintenant ma fille et je ne te laisserai pas t'en aller chez les étrangers. » Elle caressait la jeune femme, la câlinait, la poussait très doucement vers la porte. Enfin, Astrid entra, mais Burge resta dehors. Alors la vieille femme lui demanda qui elle était et comment les choses s'étaient passées, et pleura sur elle, si bien qu'Astrid se mit à pleurer sur elle-même. Et la vieille femme jugea sévèrement son fils. Astrid avait raison, elle ne pouvait demeurer chez un homme comme lui. Il mentait si souvent. Mais il avait toujours été si beau de corps et de visage. Déjà, quand il était tout petit, sa mère s'étonnait qu'il pût être un enfant de pauvre. On eût dit un petit prince égaré. Jamais il n'avait été à sa place. Il voyait tout en grand, et quand son amour-propre était en jeu, il perdait toute mesure. Sa mère en avait pleuré bien souvent. Mais ses mensonges n'avaient encore fait de mal à personne. Dans le pays, on le connaissait, on se contentait d'en rire. Il est vrai que cette fois, le pauvre garçon avait dû être terriblement tenté. N'était-ce pas étrange que ce fils de pêcheur sût ainsi tromper les gens ? Astrid y songeait-elle ? Il se connaissait si bien aux belles choses et aux habitudes des gens riches qu'on aurait juré que c'était de naissance. Sûrement, il était égaré dans la vie. La preuve, c'est qu'il n'avait jamais eu l'idée de se choisir une femme de sa classe. La vieille parlait, parlait. Astrid se taisait. « Vois-tu, reprit-elle, je ne suis point parvenue à lui enlever l'orgueil et le besoin de se vanter. Mais une autre plus sage que moi y réussirait peut-être. Il est bon et capable, mon garçon. Cela vaudrait certainement la peine d'être tenté. Mais je te laisserai partir demain, je te le promets. Et où va-t-il passer la nuit ? Demanda tout à coup Astrid. Oh, je pense qu'il couchera dehors sur le sable. Il n'aura probablement pas le courage de s'éloigner. Mieux vaut qu'il entre, dit Astrid. Non, non, ma chère enfant, tu n'aimerais point le voir, et ça lui ferait aucun mal de coucher dehors. Je lui donnerai une couverture. En effet, il passa la nuit sur le sable, et le lendemain, de bon matin, elle l'envoya à la ville, car elle préférait qu'Astrid ne le vît pas. Et elle continua de parler à la jeune femme, et elle la retenait non par la force, mais par ses paroles, non avec de la ruse et des manières insinuantes, mais avec de la vraie bonté. Quand elle eut enfin obtenu que sa belle-fille demeurât près de son fils, et qu'elle eut vu les deux jeunes gens réconciliés, et qu'elle eut persuadé à Astrid que sa vocation était précisément d'être la femme de Børge Nilsson et de lui faire tout le bien qu'elle pourrait, quand la vieille femme eut accompli cette tâche, qui ne fut pas l'œuvre d'un jour ni d'une semaine, elle se prit à mourir. Dans cette vie que le souci de son fils avait continuellement occupée, Astrid voyait du moins une idée, mais elle n'en voyait pas dans la sienne. Peu d'années après leur mariage, Børge s'était noyé. Leur unique enfant était mort jeune. Elle n'avait point changé l'humeur de son mari. Elle n'avait pu lui apprendre la sincérité ni le sérieux. Mais c'était en elle que la vie avait opéré des changements. Astrid s'était de plus en plus assimilée aux pêcheurs. Elle n'avait jamais voulu revoir personne de sa famille, car elle avait honte de ressembler en tout aux femmes du Myamo. À quoi son existence avait-elle servi ? Elle gagnait sa vie à entretenir et à raccommoder les filets des pêcheurs. Mais elle ne savait pas pourquoi elle vivait, si du moins elle avait rendu un seul être heureux ou meilleur. Jamais elle ne se dit que celle qui regarde sa vie comme manquée parce qu'elle n'a fait de bien à aucune créature humaine a peut-être, par cette humble pensée, sauvé son âme.